Au micro, Idrissa Seboudia pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui. Bonjour. C'est pire que Pearl Harbor, c'est pire que le World Trade Center, a déclaré le président américain Donald Trump dans une allusion à l'attaque surprise du Japon en 1941 contre la base militaire américaine à Hawaï et aux attentats du 11 septembre 2001. Cela n'aurait jamais dû arriver, a-t-il ajouté, en s'en prenant encore à la Chine, berceau de la pandémie. M. Trump a réaffirmé sa volonté de rouvrir le pays. Pendant ce temps, l'Europe, où la pandémie semble désormais maîtrisée, sort peu à peu du confinement et amorce un début de normalisation avec un symbole fort, la reprise prochaine du championnat de football en Allemagne. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a affirmé que les États-Unis disposent de preuves significatives que le nouveau coronavirus s'est propagé depuis un laboratoire de Wuhan en Chine, mais non pas de certitude. Pour sa part, Pékin a rejeté catégoriquement l'idée d'une enquête internationale. L'épidémie a fait au moins 260 546 morts dans le monde pour plus de 3 710 240 cas selon un bilan de l'AFP mercredi. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 73 095 décès pour plus de 1,22 million de cas. Les autres pays les plus touchés sont le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne et la France. La situation reste inquiétante en Afrique. Le Tchad va isoler vendredi et pour 15 jours la capitale N'Djamena et 22 autres villes pour freiner la propagation du virus. De même, le port du masque est rendu obligatoire sur tout le territoire à partir de jeudi. Le Sénégal commence cette semaine à accueillir dans de nouveaux centres, mais non plus en milieu hospitalier, les malades les moins gravement atteints du Covid-19. En raison d'un début de saturation de certains services, a dit mercredi à l'AFP un haut responsable sanitaire. Selon un bilan de mercredi, il y a au Sénégal 1433 cas, dont 12 décès et 927 personnes actuellement sous traitement. La Mauritanie a annoncé mercredi soir un allègement des mesures contre la propagation du coronavirus, avec notamment une réouverture des marchés à partir de jeudi et une reprise des prières collectives vendredi. Mais elle maintient aussi des dispositions comme le port du masque, la distanciation sociale et le lavage des mains. La Mauritanie a 8 cas confirmés, dont 6 guéris, un décès et un malade actuellement sous traitement. Au Soudan, 30 personnes ont été tuées dans des affrontements intercommunautaires dans l'est du Darfour Sud, a annoncé mercredi le cabinet du Premier ministre Abdallah Hamdok dans un communiqué. Ces heurts meurtriers ont éclaté mardi soir après un vol de bétail entre des membres de deux communautés rivales arabes et africaines, a affirmé à l'AFP une source communautaire sous couvert d'anonymat. Un rapport récent d'experts de l'ONU contrôlant l'embargo sur les armes confirme selon l'AFP la présence en Libye de mercenaires du groupe russe Wagner et révèle celle de combattants syriens venus de Damas soutenir le maréchal Khalifa Haftar. Dans le rapport annuel de décembre dernier, les experts, en évoquant déjà l'existence de groupes armés étrangers dans le conflit, venus du Tchad et du Soudan, ne parlait pas de mercenaires russes. Après 5 mois de vacances du pouvoir, l'Irak s'est doté dans la nuit de mercredi à jeudi d'un gouvernement qui hérite d'une économie à genoux, de relations diplomatiques au plus bas et de la menace de nouvelles manifestations face à l'austérité désormais inévitable. Mustafa Al-Kazimi, 53 ans, ancien chef du renseignement ayant ses entrées à Washington comme à Téhéran, a prêté serment avec 15 de ses ministres. Au moins 5 personnes ont péri et 1000 autres ont été hospitalisées à la suite d'une fuite de gaz dans une usine chimique du sud-est de l'Inde, a annoncé la police.
La suite de nos informations. Le dossier des Sénégalais décédés du Covid-19 à l'étranger est devant la justice. Des proches de victimes ont décidé de saisir la Cour suprême sénégalaise pour forcer les autorités à accepter le rapatriement des corps. Abdourahmane Dia.
Les avocats du collectif ont déposé hier mardi une requête devant la Cour suprême pour qu'elle déclare l'illégalité de la décision des affaires étrangères, a dit l'un d'eux, maître Assane Diomandiaye. Il dénonce une violation fondamentale des droits au deuil ou à l'exercice de sa religion, mais aussi un acte discriminatoire. L'avocat espère un débat contradictoire devant la Cour suprême d'ici la semaine prochaine. Des avocats des victimes, regroupés en collectif, ont décrit leur état de détresse devant la décision des autorités sénégalaises de ne pas autoriser jusqu'à nouvel ordre le rapatriement des dépouilles pour des raisons sanitaires. Ils chiffrent à environ 80 le nombre des Sénégalais qui ont succombé au Covid-19 à l'étranger, dont une quarantaine rien qu'en France et dont les corps n'ont pas pu être ramenés au pays. Le ministère des Affaires étrangères estime quant à lui à 67 le nombre de Sénégalais morts du coronavirus partout dans le monde. Selon le directeur du département des Sénégalais de l'extérieur, Amadou François Gueye, le gouvernement sénégalais maintient sa décision de ne pas rapatrier les corps.
Dans le nord du Nigeria, les autorités de l'État de Jigawa ont annoncé hier une enquête sur des dizaines de décès survenus dans cette région très pauvre, quelques jours après que l'État voisin de Kano a attribué au coronavirus plusieurs morts mystérieuses. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
Une centaine de personnes sont mortes ces quatre derniers jours selon un résident du district dont un membre de la famille est décédé. La plupart des victimes étaient des hommes âgés entre 60 et 80 ans. Elles sont mortes ces quatre derniers jours à leur domicile et seules 13 parmi les malades ont été admis à l'hôpital. Selon le docteur Namadi, même si les 13 patients avaient des fortes fièvres, il n'est pas sûr qu'ils aient eu le coronavirus. Le gouvernement de Jigawa a envoyé une équipe de 5 médecins pour enquêter pour savoir si cette mortalité est due au Covid-19. À ce stade, il est trop tôt pour tirer une quelconque conclusion, selon le docteur Abdul Wahab, directeur de la commission d'enquête. 39 cas de coronavirus ont été recensés dans l'état de Jigawa, qui ne dispose pas de laboratoire pour effectuer des tests. Les autorités de Kano, la seconde ville du pays, ont révélé lundi que près de 600 morts mystérieuses survenues ces dernières semaines dans l'état étaient dues au coronavirus.
Pour la première fois depuis 1904, le métro de New York ferme de 1h à 5h du matin pour désinfection. Cette fermeture nocturne doit permettre d'éliminer toute trace de coronavirus dans 6500 wagons. Nathalie Barge.
L'épidémie a transformé le réseau souterrain en vecteur géant du virus. Selon une conductrice qui, après avoir été malade, a dénoncé dans une lettre ouverte au New York Times les mesures tardives de protection des agents. Selon Patrick Foy, président de la société qui gère les transports en commun new-yorkais, 109 des 50 000 agents sont morts du coronavirus. Depuis le début de la pandémie, le métro avait moins de 500 000 passagers par jour, faisant chuter le trafic à plus de 90%. Le vaste projet de rénovation jugé urgent après des années de négligence est compromis par l'effondrement des recettes. Le manque à gagner pourrait se situer entre 4 et 8 milliards de dollars.
La Minute Éco et Kiabadou.
La Banque mondiale accorde un prêt de 53 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. 21 milliards de francs CFA octroyés sous forme de crédit IDEA sont remboursables sur 30 ans avec un différé de paiement de 5 ans. Selon Adama Koulibaly, ministre en charge de l'économie, c'est pour prendre en charge les interventions d'urgence face au Covid-19, notamment la détection, la confirmation, l'enregistrement et le suivi des contacts, mais également la communication d'informations sanitaires et de mobilisation communautaire. Le FMI va contrôler l'usage de 135 milliards de francs CFA octroyés au Cameroun pour lutter contre le coronavirus. Le conseil d'administration a décidé le 4 mai de décaisser une nouvelle enveloppe au titre de la facilité de financement rapide après deux précédents rendez-vous infructueux. Louis-Paul Motazé, le ministre des Finances, a indiqué qu'il allait travailler avec le ministre de la Santé publique pour lui dire comment ça se passe, lui expliquer comment les rapports de l'usage de ces ressources doivent se faire. La propagation du Covid-19 dans la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale fait encore peser un nouveau risque de dévaluation de la monnaie commune. C'est du moins ce qui ressort des récentes réunions de la Banque des États de l'Afrique centrale. Avec la rapide progression du coronavirus, les pays de la CEMAC sont exposés à une grande récession qui pourrait aboutir à une dévaluation de la monnaie commune, le franc CFA. C'est l'une des conclusions du rapport sur la politique monétaire livré le 27 avril par la BEAC.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Du football en vue, mais aussi des grincements de dents. Le gouvernement allemand a autorisé la reprise de la Bundesliga à huis clos à partir du 15 mai. La Ligue allemande a confirmé que les premiers matchs auront lieu le vendredi 15 mai. Nous sommes heureux. C'est un signal important et formidable pour la Bundesliga. S'est réjoui le patron du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, dont le club est présentement leader du championnat avec 4 points d'avance sur Dortmund. Son homologue de Dortmund, justement, Hans-Joachim Vasquet, a pour sa part reconnu qu'un arrêt du championnat n'aurait pas été supportable économiquement pour le club. En jouant les 9 dernières journées, la Bundesliga D1 et D2 va récupérer 300 millions d'euros de droits télévision, de quoi donner un peu d'air à un secteur sinistré qui emploie en Allemagne 56 000 personnes. Parlant justement de la Bundesliga, le Bayern Munich et le Roy Sané de Manchester City sont d'accord sur le principe d'un transfert, mais la somme reste à négocier entre les deux clubs. Selon Sport Bild, le Bayern aurait offert 40 millions d'euros pour l'attaquant de Manchester City, à qui il proposerait un contrat de 5 ans. Le club anglais a besoin de rentrer d'argent pour se conformer aux exigences du fair play financier de l'UEFA et pourrait céder l'international allemand de 24 ans, qui arrivera en fin de contrat en juin 2021, et pourrait alors partir sans aucune indemnité. Lueur d'espoir de reprise également en Espagne, des joueurs du FC Barcelone et du Real Madrid ont commencé à subir des tests de dépistage en vue d'une reprise de la Liga en juin. Lionel Messi et Antoine Griezmann ont été vus arriver en voiture au centre d'entraînement du Barça. À Madrid, l'effectif du club doit aussi se soumettre à des tests au centre d'entraînement du Real, en banlieue de la capitale espagnole. L'Atlético Madrid a aussi prévu de mener des tests de dépistage. Selon le protocole de retour à l'entraînement, les joueurs commenceront par s'entraîner seuls, avec pas plus de 6 d'entre eux sur un même terrain au début du processus. Il est aussi prévu qu'ils arrivent dans leur centre d'entraînement déjà en tenue et qu'ils doivent, lorsqu'ils ne s'entraînent pas, porter un masque et des gants. Après chaque séance, ils se verront remettre un sac contenant une tenue d'entraînement pour le lendemain. En Turquie, le championnat reprendra à huis clos en juin. Nous avons pris la décision de redémarrer les ligues professionnelles aux dates des 12, 13 et 14 juin, a déclaré le président de la Fédération turque de football, Nihat Özdemir, ajoutant que sa structure compte boucler le championnat le 26 juillet. Il dit espérer que la Turquie accueillerait bien la finale de la Ligue des champions en août, initialement programmée pour le 30 mai au stade olympique Atatürk d'Istanbul et depuis reportée à une date ultérieure. Les championnats de football serbe et croate vont aussi reprendre respectivement le 30 mai et le 6 juin.
Mes chers auditeurs et auditrices, c'est Nato Camara, votre artiste, chanteuse, compositrice. Aujourd'hui, nous luttons contre l'invisible coronavirus, une pandémie qui ravage nos vies autour du monde. Pour sauver ma vie et celle des autres, je respecte le confinement et les distances de sécurité. Je prends mes mesures sanitaires, je me couvre le visage quand je tousse ou quand j'éternue. Je me lave les mains régulièrement et porte des gants lorsque je sors de chez moi. Mes chers amis, famille, fans de tous les jours, auditeurs et auditrices, pour mettre fin à cette pandémie, protégez-vous et protégez votre entourage. À très bientôt dans nos vies de tous les jours et dans les concerts. Portez-vous bien et prenez soin de vous.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Toujours en votre compagnie Idrissa Sebilia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Nigeria, deux jours après le début du déconfinement progressif, la Commission nationale sur le Covid-19 dénonce le non-respect à l'échelle nationale des règles et craint une augmentation rapide de nouveaux cas dans le pays. Les autorités menacent d'imposer un nouveau confinement. D'Abuja, reportage de Gilbert Tamba.
Le président nigérien a annoncé que seul le personnel essentiel des institutions publiques et privées irait au travail. Mais plusieurs centaines d'habitants de la capitale fédérale, Abuja et des environs, en profitent pour sortir afin de résoudre quelques problèmes. Nombreux sont ceux qui continuent de bafouer les règles de distanciation sociale et le port du masque pour freiner la propagation du coronavirus. Beaucoup de Nigériens se rendent dans les banques, les magasins et les marchés pour retirer de l'argent ou effectuer des achats sans le moindre respect des restrictions établies par les autorités en cette période de confinement progressif. Quelques réactions. C'est bien d'assouplir le confinement, mais les populations doivent céder elles-mêmes. Mais je pense que c'est une nouvelle culture pour nous et nous allons finir par nous adapter avec le temps. Vous savez, ici c'est l'Afrique et en plus le Nigeria avec une grande population. Même si c'est possible parfois, dans certains cas, comme dans les marchés, les gens tentent de respecter. Mais ce n'est pas facile pour eux. À ce jour, le pays a enregistré 2950 cas et près d'une centaine de morts liées au Covid-19. Plus de 100 agents de santé en première ligne de la lutte contre le coronavirus ont été testés positifs. Face à l'augmentation rapide des cas dans les dernières 48 heures, le gouvernement appelle ses citoyens à la prudence. Le directeur général du Centre de contrôle des maladies, Chike Uwekezu. Les premières informations reçues à travers le pays ne sont pas bonnes. Il ne s'agit pas d'imposer des restrictions, mais l'idée derrière tout ça, comment gérer le risque de s'exposer à la transmission du virus. Nous aurons de nouvelles infections à cause de ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas de doute à cela. Les cas de contamination au Covid-19 se multiplient alors que le gouvernement commence aujourd'hui le rapatriement de quelques 4000 Nigériens bloqués à l'étranger. Certains étaient partis pour des voyages d'affaires peu avant le déclenchement de la pandémie et se sont vus empêchés de revenir suite à l'imposition des mesures de confinement dans ces pays et plusieurs aéroports ont été fermés. Par ailleurs, le Royaume-Uni, les États-Unis, Israël et les pays membres de l'Union européenne ont aussi commencé à évacuer leurs citoyens bloqués au Nigeria grâce à des vols d'urgence autorisés par le gouvernement fédéral. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, le secteur de l'enseignement est obligé de s'adapter face au Covid-19. Après la fermeture des écoles pour éviter les rassemblements, plusieurs gouvernements ont lancé des programmes d'enseignement à distance, soit à la télévision, soit sur Internet. Mais ces programmes d'enseignement sont-ils adaptés en Afrique où l'accès pour tous aux nouvelles technologies pose problème? Comment faire pour éviter que l'année scolaire ne soit perdue? Faut-il développer l'enseignement à distance en Afrique? Nous allons discuter de tout cela avec nos invités ce jeudi 7 mai 2020 à 19h, temps universel, sur VOA Afrique.
Au Tchad, le personnel soignant à l'avant-garde dans la lutte contre le Covid-19 est exposé à des risques de contamination. Depuis le mois de mars, une trentaine d'agents de santé ont été déclarés positifs sur les 117 cas confirmés par les autorités médicales. Malgré tout, les techniciens des laboratoires sont déterminés à aller jusqu'au bout dans ce combat contre un ennemi invisible. André Kotmadjingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Nous sommes comme des soldats. Il faut chercher à dominer l'ennemi, avoir peur ou pas. Nous avons choisi ce métier, on est obligé d'être là. Si on tombe, c'est un soldat qui est tombé.
Docteur Bessimba Inatlao, chef de service des laboratoires de l'hôpital général de référence nationale, le service où le plus grand nombre du personnel est contaminé depuis le début de la lutte contre la pandémie.
Le technicien peut se contaminer au moment de prélèvement parce que le virus circule dans les gouttelettes rejetées dans l'air. Et donc, les cache-nez utilisés peuvent protéger, mais pas à 100%. Et ces cache-nez sont utilisés à une durée de 3 heures du temps. Et c'est ce qui a fait aussi qu'au départ, ces négligences peut-être peuvent aboutir à la contamination de quelques personnels. Mais dès lors, nous avons pris conscience. Et avec le peu de moyens que l'État nous a secourus avec, donc en ce moment, au moins les cache-nez, les surblouses, on a donné déjà à ceux qui font de prélèvements.
Stressés et stigmatisés, les techniciens de laboratoire sont aussi touchés à grande échelle, mais affirment à VOA Afrique qu'ils ont le moral haut pour contribuer à éradiquer cette pandémie.
Au début, il y a une stigmatisation. Quand tu vas vers les autres services, on te dit non, là, vous, là, chez vous, là, c'est dangereux, hein, on peut aller loin de nous. Mais maintenant, c'est un peu stabilisé.
À chaque fois que nous rentrons, les autres nous posent des questions, même les collègues techniciens qui sont ailleurs, quand ils ont écouté que c'est le laboratoire d'AGN qui est contaminé, ils nous appellent pour demander des informations. Mais tout ce que nous devons, c'est de respecter les mesures barrières. Pour la maladie est là, il faut qu'on prenne au sérieux. Au départ, il y avait un peu le stress, mais maintenant, je crois que le moral est haut.
Madame Mogina Gardono Khadija Gamogan, chef de service adjointe des laboratoires, parle des mesures prises pour protéger davantage le personnel soignant.
Le port de masque est obligatoire. Le port des équipements de protection individuelle comme les gants, le port des lunettes. Et lors des prélèvements, on accentue un peu plus en portant des combinaisons pour éviter la contamination. Et l'utilisation des gels et l'utilisation du javel. Et notre bâtiment est pulvérisé régulièrement. On a renforcé les mesures de protection, donc ce qui fait que les agents travaillent quand même d'une manière un peu sécurisée.
La gestion du Covid-19 a fait l'objet d'une interpellation du ministre de la Santé publique par les députés à l'Assemblée nationale, professeur Mahamoud Youssouf Kayal.
Bien que le personnel soit protégé grâce à l'utilisation des équipements de protection individuelle, le respect des mesures de protection et des contrôles des infections s'imposent et les règles de biosécurité doivent être renforcées sur les laboratoires atteints. Il y a presque une vingtaine qui sont guéris. Et nous avons réaménagé le local de laboratoire mobile par des travaux de cloisonnement et de renforcement de la chaîne de froid pour améliorer les conditions de travail.
Jusqu'au 5 mai, le Tchad a enregistré 117 cas d'infection au Covid-19, 39 guéris et 10 morts, dont un député à l'Assemblée nationale. André Koduma Dingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, Ndjamena au Tchad sur 93.1 FM.
La recherche d'un médicament curatif contre le Covid-19 se poursuit et l'Afrique n'est pas en reste. Certains chercheurs africains proposent des solutions à base de plantes. C'est le cas du Covid Organix, qui est même déjà commercialisé à Madagascar. L'OMS dit que la solution peut effectivement venir de la pharmacopée traditionnelle, mais les produits proposés doivent être soumis à des protocoles scientifiques rigoureux. Le point avec Mohamedou Humfa.
La solution thérapeutique contre le Covid-19 viendra-t-elle de l'Afrique? Certains naturopathes africains y croient. En tout cas, Madagascar a déjà sa solution. Il s'agit du Covid Organix, une solution buvable à base d'artémisia. L'artémisia est une plante déjà utilisée en Afrique contre le traitement du paludisme. Son utilisation n'est donc pas une nouveauté selon Eric Bodossou, président de Prometra, une ONG de promotion de la médecine traditionnelle.
Ça fait plus de 3 décennies que nous avons cultivé l'artémisinia. Nous l'avons distribué à nos différents guérisseurs et on leur a expliqué que c'était non seulement très bon pour le palud, pour la fièvre typhoïde, etc., etc. Mais malheureusement, nous avons été combattus. Aujourd'hui, si un autre président ou un autre pays trouve que c'est efficace, c'est tant mieux.
L'Organisation mondiale de la santé ne rejette pas l'artémisia, le Covid Organix ou les solutions issues de la pharmacopée traditionnelle africaine. Cependant, et selon le responsable des services d'urgence du Bureau Afrique de l'OMS, toutes ces solutions doivent être soumises à des études scientifiques rigoureuses. Docteur Michel Yao.
On encourage des innovations, notamment venant de ces médicaments traditionnels, à condition que cela suive un protocole scientifique. On a plus ou moins l'historique de médicaments qui marchent dans la communauté. Mais que cela soit diffusé au grand public, il est important qu'on ait un minimum de démarches scientifiques pour montrer que le médicament est efficace et n'est pas nocif pour l'homme.
L'OMS assure d'ailleurs dans un communiqué publié le 4 mai 2020 avoir collaboré avec les pays pour assurer un développement sûr et efficace de la médecine traditionnelle en Afrique en fournissant les ressources financières et un appui technique, ce qui a permis d'homologuer pas moins de 43 produits qui traitent des maladies comme le paludisme, le diabète, la drépanocytose et l'hypertension. Éric Bodossou de Prometra salue ses efforts, mais engage les responsables politiques à s'impliquer davantage pour promouvoir les solutions africaines.
Et l'or vert, croyez-moi, c'est l'Afrique qui détient le plus gros gisement. Si nous, les politiciens, les leaders politiques ne comprennent pas ça encore, ce serait un gros dommage. Pour que ce soit encore eux, les Nord, qui viennent encore pirater notre or vert pour nous le revendre encore. Ce serait un dommage.
En tout cas, Prometra et l'OMS se disent disposés à collaborer pour trouver un médicament curatif et homologué contre le COVID-19.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
À Badolité, dans le nord de la République démocratique du Congo, les services de renseignement congolais ont mis la main sur plus de 1500 armes de guerre à destination de la Centrafrique. Deux semaines plus tôt, le président centrafricain Archange Touadéra avait rencontré son homologue congolais Félix Tshisekedi à Kinshasa pour, entre autres, évoquer la sécurité à la frontière de leur pays. Eddy Issango a joint le gouverneur de la province du Nord Ubangi, Isato Zege Kaloke.
Il y a eu une saisie de munitions de guerre et d'armes de guerre, en tout cas, qui a été opérée au niveau d'une agence de la place, de Badolité, qui a été apprêtée de Kinshasa pour ici. C'est une agence de frais. Hein. Et donc, on a mis la main sur ces munitions, ces armes de guerre. C'est vrai qu'il y avait un réseau qui opérait dans les services de renseignement de Kinshasa, avait déjà des échos et suivaient. Et grâce à cette prise, je pense que les informations qui étaient en position de nos services de Kinshasa n'ont pu être confirmées par cette prise et par ces arrestations. Et donc, en ce moment où je vous parle, là, il y a une personne clé, c'était une dame qui était la plaque tournante de ce réseau d'échange de munitions. Et donc, elle est actuellement au niveau de la justice. Et la justice est en train de faire des enquêtes approfondies et en train de remonter la filière, tant au niveau ici en province qu'au niveau de Kinshasa, le lieu d'où provenaient ces munitions.
Mais quelle est la quantité d'armes saisies?
Là, on parle de plus de 1500 munitions à 47. Et puis, plus d'une dizaine de castors. Donc, les castors, ce sont des armes qu'on associe souvent à 47 pour un combat de corps à corps, hein, comme on dit, de bombes. Hein, c'est des armes quand même assez puissantes qui peuvent faire beaucoup de dégâts dans le cadre de provinces stratégiques comme la mienne.
Puisque ça traverse par la frontière, par l'aéroport, peut-on penser qu'il y a des complicités? Jusqu'où ça peut aller?
On sait qu'il y a complicité, je ne peux pas le dire maintenant. Mais tout ce que je peux dire, c'est que les munitions saisies au niveau de ma province, en tout cas, provenaient de quelque part. Et puisque la personne qui semblait être, parce qu'après, c'est tout, au contraire, jusqu'à la justice définisse, c'est la justice qui va définir la culpabilité de chacun. Mais juste après le contraire, ça venait de quelque part. Et donc, c'est un réseau. Hein. C'est une personne qui a déposé, c'est une personne qui a approvisionné, il y a une personne qui a transmis les informations. Et donc, vu qu'on a mis la main sur la plaque tournante, la personne qui a été mise aux arrêts, en tout cas pour interpeller, disons, pour enquête qui est entre les mains de la justice maintenant pour enquête, je pense que le réseau est en train d'être démantelé. Je ne sais pas vous dire quoi que ce soit en ce moment, mais je sais que la justice, comme fera son travail avec les enquêtes qu'elle est en train de mener en ce moment même où je vous parle. Le réseau est en train d'être démantelé, la filière est en train d'être remontée en temps opportun. La justice dira à tout le monde qu'en est-il en tout cas de l'enquête de ces saisies de munitions. D'autant d'ailleurs que c'est suite effectivement à la visite de son excellence le président Touadéra à Kinshasa avec le président Antoine Félix Tshisekedi Chilombo, notre président de la République, qu'il y a eu quand même des avancées dans les instructions qui ont été données par son excellence le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi pour retrouver des prisons sur notre frontière, pour empêcher que désormais la RDC puisse être une plaque tournante de déstabilisation pour les pays voisins, en l'occurrence pour la Centrafrique.
puisque les deux présidents ont parlé aussi de sécurité. Peut-on espérer que la coopération entre les deux pays au niveau des services de sécurité...
Déjà, il faut rappeler que les services de sécurité congolais ont fait un travail appréciable. Hein. Et d'ailleurs, après ces événements, il y a encore des dispositions encore en plus, encore un renforcement en termes même de moyens logistiques, de moyens financiers et même de moyens personnels pour le renforcement de la sécurité au niveau de la frontière entre le Nord et la Centrafrique, qui est une signalement longue de près de 1000 km hein, de longueur.
Isato Zegé Kalotke, gouverneur de la province du Nord Bangui à Badoliti. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée en compagnie de VOA Afrique.